Monsieur Windisch, dans la série Je ne veux pas d'une Suisse socialiste, pour cet éclairage UV, vous vouliez parler de l'histoire, des racines du multiculturalisme, de l'idéologie multiculturelle, une idéologie à laquelle sont de plus en plus confrontés, avec beaucoup de problèmes, les enseignants.
Oui, alors vous voyez, le multiculturalisme a été chanté depuis plusieurs décennies par tout le monde, comme quoi ce serait la solution pour l'organisation de l'immigration dans les pays d'immigration, à savoir que chaque culture doit se développer, pouvoir créer en fait une sous-communauté et que l'intégration deviendrait secondaire. Alors, si vous voulez, très brièvement, historiquement, dans les années d'après-guerre, 50, 60, 70, les immigrés avaient du travail, mais ils n'étaient pas intégrés culturellement. Le problème n'était même pas, ne se posait pas. Les immigrés venaient pour travailler, on parlait même pas d'intégration. Ensuite, aujourd'hui, depuis les années 50, 60, 70, il y a eu un saut gigantesque où vous avez beaucoup d'immigrés qui sont au chômage, mais qui ont des revendications culturelles et surtout actuellement religieuses. Donc non seulement on ne parle plus d'assimilation, non seulement les immigrés ne veulent plus s'assimiler, en tout cas certains, mais on refuse catégoriquement certaines de nos valeurs essentielles. Donc, vous voyez, un saut comme celui-là ne pas créer des problèmes. Alors, un tout petit éclairage historique. Voyez, par exemple, en Hollande, les théories qu'on développait et qui allaient dans le sens du multiculturalisme, on ne voulait même pas, dans les années 70-80, on ne voulait même pas de l'intégration. L'intégration était considérée comme une tolérance répressive. Vouloir intégrer les immigrés, c'était une forme de racisme implicite. Voilà les théories qu'on tenait. Ou même, vouloir intégrer les immigrés, c'était une illustration de la supériorité blanche qui veut s'affirmer. Et simultanément, on prônait, parmi ces théories sociologiques, politiques, culturalistes, on prônait bien sûr la fin des nations. Et évidemment, qu'en touchant à la nation, on touche à un domaine éminemment sensible. Donc toutes ces théories ont été développées, et bien sûr qu'on les tenait envers les immigrés. En gros, vous voyez, on les encourageait à ne pas s'intégrer, et les problèmes sont arrivés. On se souvient peut-être qu'en Hollande, il ne faut pas l'oublier, il y a eu récemment, bien sûr, les assassinats à Charlie Hebdo, mais on a assassiné en Hollande Pim Fortuyn, qui aurait pu devenir Premier ministre parce qu'il était devenu quasiment à la tête du parti le plus important, ces partis qu'on appelle toujours populistes, anti-immigrés, alors qu'il voulait simplement limiter l'intégration et exiger l'adaptation à nos valeurs les plus essentielles. Donc ce n'est pas nouveau qu'il y a eu des assassinats, on le sait bien, il y a aussi Van Gogh, Théo Van Gogh et d'autres. Du côté de la Hollande, vous voyez, on a été tellement permissif et carrément anti-intégration qu'il y a eu un retour de manivelle. Alors ensuite, quand il y a le mal est fait, il y a des théories contraires qui arrivent, se développent. En Hollande, c'était bien sûr aussi le cas. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Eh bien, certaines théories, certains courants politiques ont signalé que dans toute société, il fallait un noyau dur de culture, de valeurs auxquelles les minorités devaient s'adapter. Vous voyez, une opposition totale par rapport aux théories inconscientes, naïves, avec des effets pervers énormes. Et on a parlé de déprotéger les minorités, carrément de les déprotéger parce qu'elles étaient protégées, favorisées avec cette fameuse affirmative action n'est-ce pas, où il fallait à tout prix une certaine proportion d'immigrés, même dans certains secteurs de l'État. En Allemagne, si vous voulez, il y a eu aussi des phénomènes du même type. Les revendications en Allemagne des Turcs, qui étaient les plus nombreux, tournaient autour de la double nationalité. Les Turcs voulaient la double nationalité, ils étaient intégrés aussi économiquement et avaient des exigences culturelles. Mais une originalité de l'Allemagne, c'était qu'elle insistait sur l'intégration économique, à savoir que ce qui leur semblait le plus important, c'était que les immigrés aient du travail, s'intègrent par l'entreprise, par le travail. Et cela a relativement bien marché jusqu'à un certain point. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en Allemagne, même le chancelier Kohl avait dit que le manque de main-d'œuvre n'était pas aussi important que ce qu'on voulait croire, et que si il fallait de l'immigration, il fallait donner la priorité aux immigrés européens. Sur ce, vous avez eu des économistes, il faut rappeler ça, certains économistes en Allemagne qui disaient que après la guerre, et même jusqu'à aujourd'hui, et surtout dans les années où il y a une immigration massive, on n'aurait pas eu besoin du tout de l'immigration si on avait adapté l'économie, oui, si on avait, si vous voulez, développé la mécanisation, toute une série d'aspects, mais on avait trouvé, évidemment, certains trouvaient que les immigrés étaient une main-d'œuvre meilleur marché. Et encore une fois, ça se passe souvent comme ça, on ne pensait pas aux conséquences culturelles et politiques qui pourraient arriver petit à petit, en croyant que on pouvait simplement faire venir de la main-d'œuvre économiquement, petit à petit, bien, ils sont apparus avec leurs caractéristiques culturelles, et ensuite des revendications, justement, de plus en plus culturelles, au point où aujourd'hui, dans le domaine par rapport aux musulmans, on ne parle presque plus du travail, mais uniquement de revendications religieuses. Alors, si vous voulez, en Angleterre, eh bien, ça a été un peu le, disons, le pays le plus avancé dans la revendication multiculturaliste, parce qu'on considérait que les immigrés étaient intégrés dans la mesure où ils étaient intégrés à une communauté, à savoir à leur communauté d'origine. Mais l'Angleterre avait un cas, était un cas particulier. Pourquoi? Parce que beaucoup d'immigrés d'Angleterre étaient en fait des nationaux avec le Commonwealth, n'est-ce pas? Et il y avait là des communautés immigrées qui étaient déjà en arrivant, des Anglais, et qui on voulait favoriser et développer pour eux, on voulait qu'ils s'intègrent par communauté et non pas une intégration individuelle par les individus. On était intégrés dans la mesure où on faisait partie de la communauté. Et c'est vrai que certaines communautés s'intégraient très bien, travaillaient, ne posaient guère de problèmes, tout en étant séparés presque de la société. C'était notamment le cas des Sikhs, qui organisaient leur propre communauté, ne posaient guère de problèmes. Mais d'autres, bien sûr, en posaient bien davantage. Ensuite, on a évidemment, il y avait le cas des États-Unis, où l'affirmative action, donc où on prenait des mesures spéciales pour favoriser les immigrés dans l'emploi, même au niveau étatique. Figurez-vous que en Californie, par exemple à San Diego, ce multiculturalisme, cette affirmative action, n'était pas seulement, disons, prôné dans le domaine par les théories de gauche socialisantes, mais il y avait même une femme mère républicaine, conservatrice, qui encourageait des communautés selon des critères minoritaires. Elle a créé une section de femmes pompiers. Il fallait qu'il y ait des femmes pompiers. On n'ose pas dire pompières, évidemment. Aux États-Unis aussi, il y avait le phénomène où certaines cultures s'intégraient mieux que d'autres. Les Asiatiques et les Chinois sont connus pour être très très travailleurs, pour ne poser guère de problèmes. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous le remarquez, on en a parlé à la suite des attentats contre Charlie, certains immigrés musulmans en voulaient aux immigrés chinois qui réussissent même dans certaines banlieues, enfin jusqu'à un certain point, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc, si vous voulez, cette affirmative action, le fait de favoriser les immigrés aux États-Unis a été très loin. Il y avait, par exemple, des cas où on licenciait une institutrice blanche pour mettre à la place une institutrice noire. Vous devinez les effets. Le président Clinton avait dit d'ailleurs que certes, il fallait, était obligé de dire qu'il fallait poursuivre la politique d'affirmative action et d'intégration, mais que, il fallait éviter les effets pervers, cela toujours quand le mal est fait. Et vous savez qu'aux États-Unis, l'affirmative action, le fait de favoriser les immigrés par rapport aux nationaux, est devenu anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une situation où on nomme une personne de couleur, un noir à la place d'un blanc, le blanc peut faire recours. Donc voyez ce que ça crée comme climat détestable avec le cas évidemment ultime. Le cas ultime avec ce qui se passe quand vous avez aujourd'hui des islamistes, des terroristes qui ont carrément une haine du pays qui était censé les intégrer et qu'on arrive à un stade où effectivement le fait de vouloir détruire nos valeurs, notre civilisation, est un des objectifs d'immigrés qui autrefois étaient intégrés, où le travail, l'intégration économique passait en premier et les revendications culturelles n'existaient carrément pas. Donc, ce que je voulais montrer, c'est le saut gigantesque qui a été fait sous l'effet de théories et de politiques complètement naïves et irresponsables au nom d'une égalité où on finit par préférer les immigrés aux nationaux. Ça se repose aujourd'hui aussi en Italie. Vous voyez ce qui se passe avec les clandestins qui débarquent. Donc, on arrive à des situations qui vont développer et créer des conflits. Certains commencent à parler de guerre civile. Je crois qu'il était important de voir d'où on est venu pour arriver au stade actuel. Et c'est aussi, sans aucun doute, une des raisons pour lesquels j'ai tellement insisté sur la nécessité de rester exigeant sur la naturalisation à plusieurs reprises. Parce que quels sont les effets de cette situation nouvelle? C'est comme cela qu'on comprend que vous avez aujourd'hui des théories, des propositions politiques qui proposent carrément et qui montre qu'il risque d'y avoir remplacement de population et qui prône la remigration, c'est-à-dire le retour des immigrés, d'une partie des immigrés, de certains immigrés dans leur pays d'origine. Alors cela paraît absolument scandaleux pour certains, toujours les mêmes évidemment, ceux qui ont cette vision bien-pensante, politiquement correcte, où l'étranger passe avant les nationaux. Mais je voudrais juste rappeler que déjà en 1971, j'étais chargé de faire un rapport avec des collègues pour le Conseil de l'Europe sur la situation des immigrés. Et figurez-vous que déjà à ce moment-là, le 60% des immigrés qui ont été interrogés, c'était plus de 1000, eh bien le 60% voulait venir travailler quelques années en Suisse et repartir pour faire profiter leur pays d'origine des compétences acquises. Donc il n'y avait rien de scandaleux, le retour était même un mythe, on aspirait, on venait pour ensuite retourner, tandis qu'aujourd'hui cela est considéré quasiment comme une horreur, comme une déportation. Et figurez-vous que également déjà en 1971, 45% des immigrés qui étaient en Suisse, il y avait déjà à peu près 15-16%, trouvaient qu'il y avait trop d'étrangers, eux-mêmes donc. Et 61% trouvaient que le nombre d'immigrés devait être limité. Alors que vous voyez aujourd'hui la polémique autour de l'initiative qui justement veut stabiliser, voire réduire les immigrés. Tout ce qui est prôné aujourd'hui, après des dégâts considérables effectués et des tensions sociales, culturelles et politiques importantes, était déjà présent, mais les immigrés eux-mêmes étaient d'accord et voyaient que ça ne pourrait pas jouer. Donc, on a une illustration, je pense, par ce très bref parcours historique de l'irresponsabilité, de la naïveté et du côté destructif de certaines idées qui se veulent bien pensantes et qui, au final, créent des catastrophes et des dangers sociaux et politiques très importants.
Merci, Monsieur Windisch.